Merci. Donc, à notre ami Monsieur Boucher, donc, son témoignage est non seulement donc, intéressant en lui-même, mais aussi donc, il nous permet d'aborder donc, une réflexion sur quel patrimoine et qu'est-ce qui doit être conservé dans tout ce qui compose, a priori, à notre point de vue, de ce qui compose le patrimoine. C'est un bon exemple et c'est une bonne réflexion. Les chemins de fer donc, ont permis de circuler, c'est vrai, mais souvent aussi, donc, ça a été des vecteurs de guerre. Pierre Denier ne nous dira pas le contraire. On aborde maintenant donc, tout à fait le cœur de notre problématique de cet après-midi avec l'histoire de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Et cette gare de Saint-Jean-de-Maurienne s'est trouvée par l'histoire, donc tout à fait au cœur des batailles de Magenta et de Solferino. Pierre Denier, que je ne présente pas, tout le monde le connaît, donc dans cette salle, c'est entre guillemets l'historien moriennais. Merci Pierre de ta contribution.
Merci, et moi je vais parler simplement d'un petit épisode, enfin d'un gros épisode.
Plus fort Pierre.
Une conséquence de la gare sur une ville. Bien dans les grands mouvements nationaux et libéraux de 1830 et 1848, Les patriotes italiens s'étaient tournés vers le royaume de Piémont-Sardaigne, le seul état moderne de la péninsule pour les moyens de la unité. Le problème, c'est que la Lombardie et la Vénétie sont sous domination autrichienne. Alors Charles Albert avait pris la tête de ce grand mouvement national. Ses troupes pénètrent en Lombardie pour soutenir la révolte contre l'Autriche. Le mot d'ordre alors, c'était Italia Faradace. Mais voilà, l'Autriche est trop puissante et battue à Custoz en 1848 et à Novare en 1849. Charles Albert cède la place à Victor Emmanuel II. Son ministre Cavour est pragmatique. Pour battre les Autrichiens, il faudra une aide extérieure et pour obtenir cette aide, il faudra une monnaie d'échange. Lorsqu'il était jeune sous-lieutenant à l'essayant en 1828, il avait pu constater que l'unité italienne n'était pas le principal souci des Savoyards, et d'ailleurs une forteresse à cet endroit fait de la Savoie un simple glacis protecteur. Cavour a donc de quoi négocier lorsqu'il rencontre secrètement Napoléon III à Plombières le 20 juillet 1858. L'armée française hâte sa préparation et pourra bénéficier du chemin de fer, bien sûr, mais aussi du télégraphe électrique Morse qui a remplacé le chap abandonné en 1856. Quant au chemin de fer, la nécessité a peut-être accéléré l'achèvement des lignes. Par exemple, le pont de Culoz, dont on a parlé tout à l'heure, est inauguré un an et un jour après la pose de sa première pierre. Il me semble que l'on va un peu moins vite aujourd'hui. Alors, Saint-Jean-de-Maurienne, qui est donc terminus de la gare, de la ligne de chemin de fer Victor Emmanuel, verra passer une grosse partie des effectifs, même si certaines troupes françaises venues d'Algérie débarquent à Gênes, d'où le train les emmène ensuite vers la plaine du Pô. Et on parle de 48 000 hommes à Suse, 8 jours après la déclaration de guerre, et l'empereur est même 84 000 à Gênes, 8 jours plus tard. Et l'empereur va exiger que ce délai soit réduit à 6 jours. Et donc, au départ de Paris, on aura entre pratiquement d'avril à mi-juillet 1859, la compagnie du PLM va transporter 230 000 hommes, ainsi que tout leur équipement, par une trentaine de trains quotidiens. Et ici, la logistique se met en place très vite. Alors que l'ultimatum autrichien ne date que du 23 avril, chacun des derniers jours de ce mois, ce sont 6 à 7 000 hommes qui font étape à Saint-Jean avec armes et bagages et plusieurs centaines de chevaux. Or, dans une ville qui dépasse alors à peine les 3 000 habitants, évidemment, il faut arriver à caser tout ce monde. Lors de la réunion du conseil municipal du 23, c'est-à-dire le jour même de l'ultimatum, le maire, le chevalier Jean-Pierre Fay, déclare qu'il faut préparer la paille, le bois, les moyens de transport, les effets militaires jusqu'à Modane. Et à cause de la rareté des fourrages, il demande à ce que l'on puisse réquisitionner, enfin, la paille pour coucher les hommes aussi, il faut qu'on puisse réquisitionner également des fournitures sur toutes les la Chambre et de l'île Saint-Jean. Ces soldats que l'on va coucher sur la paille, il faut quand même les mettre à l'abri. Pour ça, on va réquisitionner tous les espaces disponibles. L'église Notre-Dame, par exemple, on va en mettre 300. La chapelle Saint-Antoine, vous voyez ici, 150. Et puis dans diverses remises, on va être 100 d'un côté, 200 de l'autre. Et on en casse même 350 sous les portiques et davantage encore dans le cloître. Et en fait, les chevaux sont presque mieux lotis. Au début, ils ont droit à des billets de logement dans les nombreuses écuries de la ville et ils sont soignés en cas de besoin par le vétérinaire local qui signe Simon VD, artiste vétérinaire. Les officiers sont attribués, eux, des billets de logement dans les hôtelleries et les maisons bourgeoises et leur liste permet d'inventorier les plus belles demeures. Quant aux officiers subalternes, ils sont un peu moins bien logés, comme le montre cette lettre du chanoine Mestralet, directeur du Grand Séminaire. Monsieur le syndic, je prends la liberté de vous faire observer que les lits du Grand Séminaire sont tellement étroits qu'ils ne peuvent contenir deux personnes. Aussi, messieurs les officiers, sont-ils justement froissés quand on leur offre des lits où il leur est impossible de prendre aucun repos. Voilà qu'ils demandent également de ne pas envoyer plus de 15 officiers, le linge de la maison n'y suffit pas. Et il faut bien sûr nourrir tout ce monde. Donc, tous les boulangers sont invités à fabriquer la plus grande quantité de pain des deux qualités et préférablement de la seconde pour l'usage des foules. Et ce pain sera de 1, 1,5 et 2 kg. Et il sera délivré de la farine par le magasin militaire à ceux qui en ont besoin à 2h après-midi à la chapelle Saint-Antoine. Le maréchal Camp Robert arrive à Lyon le 22 avril pour prendre le commandement des 3e et 4e corps d'armée avec l'ordre de concentrer rapidement ses forces dans la région de Suse. Il met immédiatement en place un dépôt de vivres à Montbéliard et un autre à Saint-Jean, chacun pour 10 000 hommes durant 5 jours. Et pour coordonner avec les administrations locales, les approvisionnements et le logement des troupes, il envoie à Suse un intendant. Et il fait mandater une avance de 50 000 francs d'argent liquide pour couvrir les premières dépenses. En de Saint-Jean, les troupes vont aller à pied, par le col du Mont-Cenis, reprendre le train à Suse. Elles font ça en trois étapes. D'abord, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane. Ensuite, Modane, Glance-le-Bourg. Et enfin, le col du Mont-Cenis. Et de là, bien la descente, bien sûr, la commence la descente sur Suse. Donc, remarquez au passage les poteaux télégraphiques, qui sont alors une grande nouveauté, ce qui explique que le graveur les ait particulièrement mis en valeur, pas seulement pour le côté esthétique. Donc restons en Maurienne, où le passage va se poursuivre jusqu'à l'année suivante. Les renforts, la logistique, le retour des blessés, plusieurs d'entre eux d'ailleurs décèdent à Lessayon, où ils seront ensevelis au cimetière d'Issarde. Et puis on a ensuite le passage des troupes victorieuses, enfin après l'annexion, des militaires savoyards choisissant l'une ou l'autre patrie. Et ceci ne va pas sans quelques désagréments. On trouve aux archives, par exemple, des textes dont la ville a souffert de graves dommages dans ses propriétés, places et promenades publiques. On trouve une note des objets pris ou dévastés par les militaires. Le sculpteur Joseph Gilardi se plaint des soldats cantonnés dans le cloître et qui ont brûlé son bois d'œuvre. Il fallait bien se chauffer. Et quant aux soldats qui n'avaient pas trouvé d'abri, ben, ils campaient dans les champs. Or, tous les espaces étaient cultivés à ce moment-là. Évidemment, d'où les dégâts. Et les chevaux qui étaient attachés aux arbres en rongeaient l'écorce et il fallut en remplacer par la suite une grande partie qui n'avait pas résisté. Et alors à ces dégâts involontaires s'en ajoutent d'autres, où on témoigne cette lettre au syndic datée du 30 août 1859. Monsieur le général, des groupes de soldats, principalement ceux de l'artillerie, se répandent dans les villes, mangent les raisins et rejettent ceux qui ne sont pas parfaitement mûrs. Et il prend les gardes-vignes et leur donne le défi qu'on ne les empêchera pas dans la maraude. Alors ces désagréments font tout de même l'objet d'indemnisation et les autorités se montrent très vigilantes pour éviter toute tension entre futurs compatriotes. Et quant au télégraphe, les Saint-Jeanais ont pu être, grâce à lui, au courant tous les jours des nouvelles du front, communiquées par voie d'affiche par l'imprimeur Vuillermet. Alors quelques exemples en donnent le ton. Le 8 mai, par exemple, les Autrichiens continuent à commettre des actes répréhensibles, guerre de pillards, nom de soldats. Le 10 mai, les troupes autrichiennes continuent leur mouvement sur la Sésia. Versailles, d'après le dernier avis, n'est pas encore occupée. Les Français continuent d'arriver. Le 14 mai, après, Napoléon III à Turin, la triomphale est dressée à l'héritier du vainqueur de Marengo. Et le 25 juin, c'est le bulletin numéro 100. Il nous dit « Hier, grande bataille à Solferino, toute l'armée alliée engagée, combat acharné de 6h du matin à 9h du soir, Autrichiens repoussés sur toute la ligne. » Évidemment, il n'est pas question d'évoquer dans ces bulletins l'importance des pertes. Les Magenta, Solferino, San Martino sonnent de façon bien amère. La sauvagerie des combats, les pertes en hommes exceptionnelles, manque de médecins, conditions sanitaires effroyables. Enfin, tout ça fait que Napoléon III a préféré écourter l'intervention en signant l'armistice de Villafranca. Et quant aux témoins, eh bien, ils furent tellement bouleversés que l'un d'entre eux, Henri Dunant, entreprit la création d'une organisation humanitaire qui tiendra la Croix-Rouge internationale. Mais nous éloignons de notre sujet. Donc revenons ici. Les documents officiels parlent surtout du retour de Napoléon III, qui dévale les pentes du Mont-Cenis en calèche pour venir prendre le train à Saint-Jean le 16 juillet 1859. Le Monde illustré du 30 juillet 1859 en donne une gravure assez impressionnante, parce que bien on peut reconnaître, si on est vers la gare, effectivement il y a de l'espace, mais comme on reconnaît la cathédrale, à peu près, disons qu'on a multiplié la place à peu près par 100. Voilà, en tout cas, la Maurienne et la gare de Saint-Jean avaient donc, plus que le reste de la province, joué un grand rôle dans les événements qui précèdent l'annexion. Et c'est pourquoi la Société d'histoire de Maurienne considérait qu'il manquait quelque chose. Alors que sur l'autre versant des Alpes, de nombreux monuments commémorent la campagne de 1859, il n'existait rien de ce côté-ci. Et j'ai donc pris l'initiative d'organiser un colloque spécifique en 2009. Et avec le soutien du Souvenir français, de la SNCF, de la ville de Saint-Jean et du Conseil général de la Savoie, de faire réaliser une plaque scellée sur le mur de la gare qui a vu passer tant de troupes, donc à la mémoire des vainqueurs de Magenta, Solferino et San Martino, et aux cheminots qui les ont transportés 1859-2009. Voilà, plaque qui sera bien évidemment conservée sur la nouvelle gare. Bon, la Savoie est donc désormais française, sauf quelques petits morceaux. Et les Français découvrent leur nouvelle province grâce notamment aux fameuses gravures de Nice et Savoie, dont la plus belle est bien évidemment celle qui représente Saint-Jean-de-Maurienne et sur laquelle le graveur n'a pas oublié de faire figurer le train. Vous apercevez donc. Voilà, je vous remercie.